Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Bonjour à tous, nous sommes là, en forme, les GG, avec vous, en direct, comme tous les jours, de 9h à midi, lundi 8 août. Les grandes gueules vont commenter l'actualité, la société, dire ce qu'ils pensent, et on vous attend au 32-16. Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Elina Dumont, intervenante sociale. Bonjour Elina.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Joël Dagosséry, coach de vie. Bonjour ma chère Joël.
Bonjour à tous.
L'avocat Charles Consigny est avec nous aussi. Bonjour Charles.
Bonjour maître. Bonjour à
tous. Et Claire Opetit, notre ancienne GG, l'ex-députée, est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour ma chère Claire.
Bonjour à tout le monde.
On va parler bien sûr de la sécheresse, de ce manque d'eau potable à travers le pays. Et cette question aujourd'hui, est-ce que finalement on doit se résoudre à payer l'eau plus cher? Comme ça, au moins, on fera attention au fil de notre utilisation. Si on paye plus cher, on sera peut-être plus raisonnable. Plus on consomme, plus on paye. 32-16 pour venir en parler tout à l'heure à 10h dans les GG, dans les grandes gueules. Notre premier sujet de discussion va nous amener à reparler de ce phénomène qu'on n'arrive pas à endiguer, celui des rodéos urbains avec ces deux enfants qui ont été blessés vendredi dernier à Pontoise. On est aussi à Toulouse, en Haute-Garonne, les patients d'un institut du cancer qui, toutes les nuits, les patients et l'hôpital, hein, sont réveillés par le bruit infernal des rodéos urbains. On a aussi du côté de la Gironde deux jeunes qui se sont percutés lors d'un rodéo urbain sur un tronçon de route qui était interdit. Un est grièvement blessé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer le phénomène des rodéos urbains? 32-16 pour venir en parler avec les GG. Déjà la parole à la police.
Si on imagine régler le problème des rodéos urbains par une présence policière, on va pas mettre des policiers dans toutes les cités. On sait très bien d'ailleurs que mettre des policiers dans les cités dites difficiles, c'est également d'autres problématiques. Tant qu'il n'y aura pas une chape pénale, administrative sur ces voyous, qui vont se dire que tant qu'ils peuvent continuer comme ça, de manière infinie, à rouler en toute impunité, ils vont continuer. Si aujourd'hui, on réfléchit à un système où les policiers peuvent faire cesser ce type de rodéo, c'est-à-dire soit avec des airs, soit avec des poursuites, ou du contact tactique, moi je crois qu'il ne faut pas s'interdire ce débat, parce qu'il faut faire cesser ces victimes, qui sont finalement des jeunes enfants aujourd'hui, et ça c'est des drames familiaux inacceptables.
Voilà, vous venez d'entendre David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale. On va reprendre le dernier événement en date, c'était vendredi dernier, à Pontoise, dans le Val d'Oise. On est au nord-ouest de Paris avec cette motocross qui a percuté une fille et un garçon âgé de 10 et 11 ans. Alors le garçon va s'en sortir, son état de santé est stable, la petite fille est toujours entre la vie et la mort. Pardon, mais elle a eu le crâne complètement ouvert, hein, par le choc avec la moto. Le jeune de 18 ans, au départ, il voulait s'enfuir. Finalement, ce sont des passants qui sont intervenus. Ils ont réussi à attraper son téléphone portable. Il a été reconnu. Quelques heures après, il s'est rendu à la police. Alors, le problème de ces rodéos portables, en fait, c'est la prolifération. Et depuis, dans le Val-d'Oise, je regardais depuis le début avril, rien que dans ce département, on en est à 534 interpellations. Tous les habitants le disent de toute façon, tous les jours, on a peur. C'est ce qu'ils déplorent, en fait, parfois, c'est le manque d'intervention de la police. Quant à la police, elle leur dit, si vous voulez que nous sévissions et que les personnes qui sont les auteurs de ces rodéos sauvages puissent être condamnées, lourdement condamnées, venez témoigner. N'ayez pas peur. Il y a la peur aussi des riverains, des habitants, de dire, si on le reconnaît, et si on va parler des jeunes qui, souvent d'ailleurs, sont pas casqués ou sont connus dans le voisinage, si on va témoigner, de toutes les manières, les représailles après, ce sera contre nous. Donc, les rodéos urbains, est-ce que la police doit aller au contact? Les habitants, cesser d'avoir peur? 32-16 pour en parler avec les GG, Claire?
Pour moi, pour que la police soit efficace, il faut absolument qu'ils aient des drones.
Ah, tu veux mettre des drones?
Ah, les drones. À partir du moment où il y aura des drones, déjà la police n'aura pas à faire la course-poursuite vis-à-vis d'eux, avec le danger pour la police comme pour les jeunes. Déjà, ça serait déjà une bonne chose. Et également, la localisation des portables, évidemment, pour pouvoir les récupérer, pouvoir récupérer le matériel après, que les sanctions viennent quelques heures après et là, qu'il y ait des sanctions. Évidemment, pénale, très très ferme. Et quand on J'arrive pas à comprendre. Parce que non seulement ils font du bruit, mais ils font du bruit aussi pour les parents. Comment se fait-il, à partir du moment où ils demeurent tous dans la cité, les parents peuvent pas dormir, les frères et les sœurs non plus, et personne ne bouge, les parents ne bougent pas, il n'y a rien. Il y a vraiment un manque d'éducation et des parents aussi pour sévir. C'est pour ça qu'il faut vraiment donner maintenant à la police, évidemment, le matériel qu'il faut et adéquat. Il faut être moderne dans les choses.
Donc toi tu veux des drones et faire comme en Grande-Bretagne, tu sais que la police a le droit d'aller ce qu'on appelle au contact technique, hein. C'est-à-dire que la police a le droit de percuter en dosant, de percuter non. Ou de pousser les motos pour faire chuter le chauffard, quoi, en fait, si tu veux. C'est autorisé, ce qu'on appelle le contact tactique ou le contact technique, c'est autorisé depuis 2018 et le rodéo urbain est considéré comme activité antisociale en Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne,
ça a baissé de 20%.
Seulement.
La pratique des urbains, ça a baissé au moins chez eux, tandis que nous, c'est la prolifération. Joël Dagosséry.
Écoute, moi, je serais plutôt pour la méthode anglaise au point où on en est. Alors, moi, la solution que Claire a avancée sur les drones, bien sûr, parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même un manque de modernité, de mise à jour des moyens qui sont dans la police. Mais au-delà de ça, enfin, pour moi, quand il y a une mise en danger de la vie d'autrui, on attend de la police qu'elle intervienne. Enfin, quand tu te sens en danger, t'attends que quand tu appelles la police, qu'il y ait une intervention. Là, les interventions sont assez limitées. Donc, moi, je serais plutôt pour la solution britannique.
Ouais.
Dans le sens où la personne qui fait ce rodéo se met en danger.
En France, la directive est de ne pas aller au contact, de ne pas entamer de course-poursuite.
C'est une erreur parce qu'en fait, cette personne-là se met en danger. Elle le fait aussi pour sentir le goût du danger. Donc à ce moment-là, quand tu veux sentir le goût du danger, quand le danger t'arrive sur la face, j'ai envie de dire, pour rester poli, c'est tant pis pour toi. Donc moi, je suis pour une intervention. Quand tu vois qu'il y a deux jeunes enfants qui sont là entre la vie et la mort, des parents qui sont complètement dévastés, je suis désolée, la police doit intervenir et doit arrêter d'avoir peur. Il y a un moment, comme on sait que la peur change de camp, mais pour le coup, là, c'est vrai. Surtout que ce sont des phénomènes qui se reproduisent chaque année. Donc, en fait, on sait à quelle période ça commence, à quelle période ça finit.
On sait que l'été, du printemps, ça prolifère.
Voilà, on sait exactement dans quelle cité ça se trouve. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'inconnu, là, aujourd'hui, dans ce phénomène-là. Donc, je suis désolée. Pour moi, il faut une intervention de la police.
Mais t'as vu, ça suffit pas. C'est ce que dit David Lebars, le président du syndicat des commissaires de police.
Il faudrait commencer quelque part.
Croire que multiplier la présence policière résoudra le problème, c'est se tromper. C'est ce que dit Lebars. Bah,
en même temps, la présence policière, je suis désolée, quand t'es une habitante, la présence policière, ça te rassure toujours. Donc, on peut toujours me raconter.
Ouais, mais enfin, ça dissuade pas les jeunes de partir avec leur moto, de faire une roue arrière. Parce que là, en plus, c'était quasiment en plein centre-ville, quand ça s'est produit.
Oui.
Lina Dumont.
Alors, déjà, tout d'abord, je voudrais dire bravo aux passants d'avoir récupéré le portable. Non, mais parce que souvent, on accuse les gens de ne pas réagir. Bah, je leur dis bravo. Par rapport à les témoigner, mais je comprends pas, c'est Charles qui me le dira mieux, mais en principe, on peut témoigner anonymement en France, non ?
Si, on peut, oui.
Bah, pourquoi alors, s'ils ont peur, les gens ?
Il faut faire que ça sache qu'ils ont témoigné.
Oui, bon.
C'est-à-dire qu'on te voit rentrer du commissariat ou sortir du commissariat, parce que c'est un moment ou un autre où le policier vient t'interroger chez toi, ou tu es convoqué au commissariat, quoi. Enfin, j'imagine.
Ouais. Enfin, Alain,
ça peut se faire ailleurs. Hein. Mais rencontre, on peut se faire ailleurs qu'au commissariat ou au domicile de la personne.
Il y a des témoignages par des lettres corbeaux, tu vois, ça existe, et la police
les prend en compte.
Si, les lettres corbeaux, c'est pris en compte par la police quand
il y a...
Et ce que je voulais dire, moi, je trouve que la technique britannique, elle est très tentante. Mais je pense que ça dépend où. Par exemple, quand c'est en centre-ville, t'imagines, si entre-temps, il y a des passants qui passent, là, tu peux faire un carnage monstrueux. Par contre, si ça se passe en province, au milieu des champs...
C'est jamais au milieu.
Là, tu vois, là, ça pourrait le faire, là, la technique britannique. Mais en plein centre-ville, tu peux pas, tu vas pas mettre tout le monde en danger. Enfin,
moi, Charles Consigny.
Moi, je pense que c'est un phénomène très important, puisqu'on s'en plaint dans toute la France de ces rodéos urbains. Je ne pense pas qu'il faille donner l'ordre ou autoriser les policiers à entrer en contact, comme on a dit. Je crains que ça dégénère assez vite. Je pense qu'il faut quand même essayer...
ça dégénère même sans l'intervention des policiers.
Oui, mais je me dis que si on commence à autoriser les voitures de police à percuter des motards.
Ils le feront pas d'ailleurs.
Je pense qu'on ouvre la porte de quelque chose de compliqué. En revanche, je pense qu'on peut. Moi, je ne sais pas pourquoi le syndicaliste qu'on a entendu dit qu'on peut pas mettre de policiers sur le terrain et notamment dans ces quartiers.
Ça suffit pas pour endiguer le phénomène, parce que c'est un phénomène en expansion. Tu sais qu'en plus, il est multiplié par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que plus tu te filmes, plus tu as de vues, plus tu as de likes, plus tu impressionnes l'autre bande ou l'autre quartier, tu vois. Donc il y a vraiment aujourd'hui une espèce de phénomène de notoriété en plus lié au rodéo urbain.
Je trouve que si on avait davantage de policiers présents dans les quartiers en question et s'ils se déplaçaient aussi dès qu'on les appelle pour un rodéo urbain, je pense que ça aurait quand même un effet dissuasif.
Claire dit, il faut mettre des drones. Je trouve que c'est de manière à faciliter les interventions aussi.
Savoir où ils sont, comment.
J'ai pas forcément envie de vivre dans une société où il y a des drones partout qui nous.
Mais c'est la sécurité.
Mais après, vous allez voir qu'on aura des drones pour tout. Enfin bon, on aura des drones qui regarderont si on arrose notre jardin. Enfin,
je pense qu'il faut aussi comprendre l'état d'esprit des personnes dans ces quartiers-là. Le problème, c'est qu'il y a un état d'esprit qui est lié au territoire. Donc moi, pourquoi est-ce que je suis pour l'intervention de la police? Parce que pas seulement pour techniquement arrêter des gens, c'est aussi pour reprendre le territoire. Parce que quand tu vis en cité, en fait, t'as l'impression que ta cité, c'est à toi. C'est ton chez toi. Tout ce qui entoure la cité, c'est à toi. D'ailleurs, même une cité qui est à côté ne peut pas rentrer dans ta cité. Donc il faut bien comprendre que ce sont des gens qui réfléchissent par territoire. Donc c'est important que la police soit présente. Donc j'ai pas compris très bien ce que le monsieur, le policier, le syndicaliste disait. Mais aussi qu'elle intervienne pour faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas de territoire qui t'appartient. Et ça, c'est très important de comprendre en fait l'état d'esprit dans lequel on vit quand on est en cité.
Enfin, en province, excuse-moi, c'est pas des histoires de cité. Ce que j'ai vu, moi, c'était au milieu des champs, sur des routes forestières.
Oui, bien sûr.
Là, tu vas pas me dire que c'est une histoire de territoire.
Enfin, oui, mais bien sûr, moi, je connais, j'avais un ami qui partait avec sa moto et ses amis et qui allait dans des champs, etc. Mais qui a déjà la présence d'esprit de sortir de
c'est moins dérangeant pour les riverains quand
c'est
en plein champ.
C'est même pas dérangeant du tout. Mais c'est leur risque à eux.
Vous savez, dans ma jeunesse, bon, c'est vrai que là, ça a pris de l'ampleur. Mais moi, dans ma jeunesse, il y avait des mecs avec leur moto qui traversaient tous les champs de maïs. Vous imaginez les agriculteurs, hein. Dans quel état ils étaient.
Mais à l'époque, il n'y avait pas de tracteur mécanique.
On
labourait
avec des animaux. Il y avait même des types qui passaient à fond, à cheval. Tu vois, du temps de la jeunesse d'Elina. C'était du rodéo, mais du vrai rodéo.
Du vrai rodéo,
à cheval, à Sancelles. Non, mais ce que Joël, tu dis à propos des quartiers, imagine que tu aies des patrouilles de police, et ça s'est vu, qui se mettent à ce moment-là à courser, à poursuivre. Allez, une dizaine de motos, comme ça a pu se passer à Bron ou ailleurs. S'il y a un accident derrière, tu sais pertinemment que ce sera l'affrontement. Et les consignes aujourd'hui, elles sont données de ne pas aller à l'affrontement, de ne pas poursuivre. Si tu veux, en fait, on préfère minimiser l'accident ou éviter le risque de l'accident après avoir enquête, si tu veux, et arrêter à ce moment-là.
Ouais, mais Alain, excuse-moi, là, je pense très fort aux parents, là. T'imagines la petite fille, là, qui a. Il y a le crâne.
Mais c'est ce que disent les parents. Ils disent, on savait que ça allait arriver. Là, non, il était percuté en plein après-midi.
Moi, c'est ce qu'ils ont dit. Pour moi, les vraies victimes, c'est eux. Hein. C'est pas ces rodéos.
Non, mais il faut arriver à trouver quand même des solutions les uns ni les autres soient blessés.
Mais pourquoi?
C'est quand même automatiquement, on va à l'émeute. Dans une cité, on va à l'émeute. Oui, nous allons à l'émeute systématiquement.
Pour ce genre de cas, je crois qu'il faut assumer la douleur. Vraiment, pour ce genre de cas-là.
Moi, je ne voterai jamais. Je
ne voterai
jamais une loi où les
gens se rebellent.
Où les policiers puissent rentrer dans
les affrontements.
Il faut assumer que des gens se rebellent après, qu'il y ait des émeutes. Pour ce genre de cas-là, pour la mise en danger d'autrui, je suis désolée. Qu'est-ce que tu vas dire aux parents? Ben non, il faut que les deux soient sur le même. Là, tu mets les deux sur le même plan. Ni d'un côté, ni d'un autre. Personne qui prend le.
Alors, pas du tout, je me mets à la place du policier à qui on demande à un policier d'aller rentrer dans un autre véhicule au risque de tuer quelqu'un.
Avant ça, il y a une présence policière. Il nous explique que ça ne sert à rien de mettre une présence policière. Avant ça, il faut remettre une présence policière. Il faut arrêter de se dire que dans ces cités-là, vous savez, c'est compliqué d'être présent.
C'est pas compliqué. Sans blesser personne, de pouvoir les arrêter. Et après, que la justice soit extrêmement
claire. Mais pourquoi ils interviennent en voiture? Pourquoi ils n'interviendraient pas en moto?
Ah bah, c'est pareil, tu renverses bah, quelqu'un. Que lui peut tomber aussi, il peut chuter.
C'est dégâts à
égal. Il peut tomber, mais il sait qu'il peut tomber.
Non.
Dans un instant, on verra ce qu'en dit Denis. Il est dans le Vaucluse, il est chef d'entreprise. Il faut donner les moyens à la police. Régis estime que non, ça sert à rien. Il y aura des accidents, il faut pas aller au contact. On en est là aujourd'hui avec ces rodéos urbains. On en reparle après le dramatique accident dont étaient victimes les deux enfants du côté de Pontoise, dans le Val d'Oise, avec la petite fille qui est toujours entre la vie et la mort. La police doit-elle aller au contact, faire comme en Grande-Bretagne, aller à ce qu'on appelle au contact tactique pour faire chuter la moto. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules, avec les GG, Charles Consigny, Claire Aupetit, Joël Dagosséry et Elina Dumont.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, dans les grandes gueules, nous sommes avec Claire Aupetit, Charles Consigny, Joël Dagosséry et Elina Dumont. On reparle de ces rodéos sauvages avec ces deux enfants qui ont été blessés lors d'un rodéo urbain vendredi. En fait, vendredi dernier, faut bien comprendre ce qui s'est passé. C'est un jeune seul qui s'est mis à démarrer en faisant en roue arrière, et qui a percuté, qui a accéléré, et qui a percuté les enfants qui étaient juste à côté, qui étaient là, qui étaient en train de jouer. Il y avait des gens qui vaquaient à leurs occupations tranquillement. Tu sais, les enfants, ils jouaient à trap-trap ou cache-cache, tu sais, et au moment où lui, il a démarré, les deux enfants étaient en train de courir, et avec la moto et la vitesse, il les a percutés. Donc du coup, aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ces rodéos urbains, en plus, avec les concours de vues, les concours de vidéos, le fait de dire d'une bande à un autre ou de l'un à l'autre, t'as vu ma figure, t'as vu mon wheeling, t'as vu ce que je fais, j'ai eu plus de vues, j'ai eu plus de likes que toi, c'est de la démonstration d'agilité, de force, de prouesse technique, ce que tu veux, on en a de plus en plus. Alors, est-ce que comme en Grande-Bretagne, on doit se dire, tant pis, les policiers y vont, ils vont au contact technique, ou au contraire, on compte sur les témoignages des habitants pour essayer d'avoir un maximum d'interpellations et d'arrestations. Denis, bonjour. Denis, bonjour. Bienvenue, Denis. Bienvenue sur RMC dans les GG. Vous m'entendez, Denis?
Oui, je vous entends très bien.
Alors, est-ce que la police doit aller au contact?
Ouais, mais c'est certain, mais c'est beaucoup plus complexe parce que là, ce qu'on voit là, c'est malheureusement des épisodes qu'on voit régulièrement. Chaque fois, on revient au même résultat et aux mêmes causes et aux mêmes conséquences. Le souci, c'est que déjà d'entrée, il faudrait mettre au centre les victimes parce qu'on a tendance à oublier ça. Mmh. Et puis après, derrière, c'est quelque chose de très long. C'est-à-dire que oui, il faut revoir la politique de la police, mais surtout que les politiciens et nos politiques soient enclins à ne pas changer d'avis tous les 15 jours, déjà. Et puis après, derrière, tout va avec. C'est-à-dire qu'il y a, malheureusement, on paye 40 ans de laxisme et c'est devenu quasiment du quotidien de la normalité, quoi. C'est-à-dire que le fait même d'enfreindre certaines règles, c'est devenu quelque chose de récurrent. Et c'est vrai que ce que vous dites est juste. Mmh. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier cela, parce qu'en fait, c'est au plus con qui va faire la vidéo la plus nulle d'être présent sur les réseaux. Et donc, ça va accentuer. Mais le souci qu'il y a, c'est que, un, oui, présence policière. Deux, accepter que malheureusement, il puisse y avoir des accidents, puisque la police elle-même vous dit qu'elle fait pas son travail parce qu'elle a peur des accidents. Malheureusement.
Ah oui. Il y a même une directive, Denis, si vous suivez l'actualité, et je suis sûr vous le faites à travers les grandes gueules ou autres, c'est même une directive qui a été signée, vous avez vu, par les préfets, de dire, vu le danger, vu le risque, il ne faut pas aller au contact pour ne pas provoquer un accident et des émeutes derrière, quoi, vous voyez, et des affrontements derrière.
Mais le problème, c'est que c'est pas d'avoir peur que ça évite la peur, c'est-à-dire qu'en faisant ça, vous voyez ce que vous obtenez. Vous obtenez malgré tout des accidents. Et le souci, c'est très simple, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est une fuite en avant de l'État, et donc en fait, derrière, vous avez des gens qui ont une impunité et qui l'utilisent, quoi. Donc à un moment donné, il faudra quand même un jour se poser les vraies questions. Est-ce qu'un État de droit peut se permettre de ne pas être présent dans certains endroits? Et donc de laisser faire, parce que le problème, c'est qu'on sait très bien que l'être humain est comme ça, c'est-à-dire que au plus vous donnez de liberté, au plus vous allez courir à la catastrophe. Il y a des règles, il faut juste, malheureusement, mais il faut apprendre à les faire respecter. Et c'est vrai qu'on ne peut pas les faire d'un coup de baguette magique. Mmh. Ça, il faut rattraper l'histoire, elle va être très longue. C'est-à-dire qu'il faut remettre en place de la proximité, il faut remettre en place l'éducation des parents, parce que ça aussi, ça compte, malgré tout. Donc, et tout le système éducatif qui va derrière. Donc ça peut être très très lent. Moi, je ne pense pas qu'on puisse du jour au lendemain changer les choses, parce que c'est là où vous augmentez le risque d'accident. Par contre, ben, c'est sur une génération, quoi. Malheureusement. Vous savez que
alors attendez, Denis, parce que oui, Claire, petit, voulait réagir à ce que vous dites.
Deux générations, non, il y a une vingtaine d'années, ça l'était déjà. Hein, je demeurais encore à Saint-Denis, et à Saint-Denis, rue de la République, piétonne, ils le faisaient. Donc, c'est plus une question de génération, c'est voilà, des jeunes inconscients. Mais par contre, la technologie, je suis désolé de réinsister, je ne suis pas désolé, d'ailleurs, j'assume. Avec les drones, la technologie maintenant existe pour pouvoir suivre le délinquant, pouvoir l'arrêter en dehors de la foule qui peut blesser. Le policier n'est pas là non plus pour créer un accident.
Imagine un rodéo urbain en plein Seine-Saint-Denis, en pleine ville. Il y a un drone qui le repère.
Un drone kamikaze, elle veut.
Voilà, qui prévient
un drone qui tire, rentre en contact.
Qui tire des missiles.
Ne dis pas n'importe quoi, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça du tout que j'ai dit.
Qui tire des missiles.
Non, je pense que c'est un drone qui vient s'écraser sur la
personne. Non, mais prenons la situation, le scénario.
Pearl Harbor.
Qu'est-ce qu'il fait? Il communique au policier.
Le policier est dans sa voiture, de toute façon, et c'est lui qui guide le drone. Donc, il le voit, ils le savent, qu'ils sont filmés, qu'ils sont...
Il faut communiquer. D'accord, mais ensuite, il faut intervenir. Oui, il faut intervenir.
Évidemment, ils vont intervenir après. On va les chercher, on va les suivre. Et quand ils sauront qu'ils vont être arrêtés dans les 24 heures qui suivent, parce qu'il y a des traces, qu'on vient rechercher le matériel...
Et parfois, il n'y a pas de plaque. Et maintenant, il y a...
Mais justement, il n'y a pas besoin de plaque. Avec le drone, tu les suis complètement. Et les policiers demandent, puisque c'est des syndicats de policiers qui demandent ça... Hein,
jusqu'à ce qu'on trouve où ils retournent avec la moto. Et ensuite, on vient, on saisit le véhicule.
Avec leur portable, à eux de suivre avec les portables, qu'ils aient le droit d'avoir là où ils sont passés, et on peut avoir tout, sans blesser, sans rien. Les policiers ne sont pas là pour créer des accidents, ou même pour... Moi, je ne suis pas pour la peine de mort, et qu'on enfonce, que la voiture du policier rentre dans
sur la moto.
Moi, je suis d'accord.
Denis,
avec
merci d'avoir
nous
été avec nous.
Nous avons une nouvelle technologie.
Je suis d'accord avec la question de Claire, mais la seule chose qui me dérange, c'est que ça vient se poser sur une peur. C'est-à-dire la peur d'intervenir.
Tu communiques.
Et ça me pose vraiment problème, parce que ça veut dire que rien ne change et qu'on change, on cherche à pallier la peur. Si il y a une peur de l'État, je vais pas dire de la police parce que les ordres viennent de l'État. Il y a une peur de l'État d'intervenir sur certains quartiers par peur d'un accident, par peur d'émeutes. Et ce que je veux dire, c'est que les personnes qui font du rodéo sauvage vont s'adapter au fait que la présence policière soit accrue, vont s'adapter au fait que les policiers maintenant interviennent. Ils vont changer leurs pratiques si complètement. Aujourd'hui, ils agissent comme ça parce qu'ils connaissent très bien que le terrain est vide. Ils ont la place pour faire ça. Lorsqu'ils n'auront plus la place, ils vont adapter leurs pratiques. Alors, je ne sais pas qu'ils vont arrêter le rodéo, mais ils iront peut-être ailleurs, sortir au moins du centre-ville, ou alors arrêter de démarrer en roue. Mais en tout cas, ils vont adapter leurs pratiques au danger actuel. Et le danger actuel, c'est zéro danger. Personne n'intervient. On est au calme. On est pépère. On fait ce qu'on veut. Donc, non, je suis désolée.
Je remercie
faut vivre à côté des gens qui démarrent sur toi quand tu marches dans la rue ou quand tu es à un feu rouge. Faut regarder ce que c'est.
Denis du Vaucluse, et c'est Régis qui est avec nous. Tiens, qui nous appelle du sud de la France, de la principauté de Monaco. Bonjour Régis.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Régis. Alors, est-ce que la police doit aller au contact? Dites-moi.
Non, elle ne doit pas aller au contact. En fait, moi-même, ça fait... Dans les années 2000, j'ai commencé à faire du stunt, ce qu'on appelle le stunt, c'est-à-dire l'acrobatie moto.
D'accord.
Et à Nice, je faisais ça à Nice, on avait la chance de pouvoir faire ça sur un parking fermé et sécurisé, qui était toléré par la police et la préfecture, et le maire de Nice. De là, on a pu se développer, on a commencé à faire des spectacles, je suis passé juge en compétition internationale. L'acrobatie moto a évolué en France. Il n'y avait pas un podium en France dans le monde où il n'y avait pas un Français.
Ouais.
En France, ça a été très fort. C'est un sport qui n'était pas connu. J'ai contacté la FFM pour avoir pour qu'en France ça puisse être reconnu, ce sport. Bon, ouais. On n'a jamais eu de suite.
Ouais.
Et après, vers les années 2015-2018, le phénomène des rodéos urbains est apparu. Et jusqu'en 2018, où c'était une interdiction, enfin
un délit.
Un délit, voilà. Et du coup, les policiers ne pouvaient pas aller à la poursuite de ces jeunes qui faisaient ça. Donc, où est-ce qu'ils venaient? Ils venaient sur les parkings, là où on était en sécurité. Donc, ils nous arrêtaient. Ils ne mettaient pas d'amende parce qu'ils nous connaissent, mais ils nous faisaient partir. Et du coup, en France, maintenant, l'acrobatie moto, c'est fini.
Donc vous êtes en train de dire que tous ces jeunes là que l'on voit faire des deux roues de l'acrobatie moto sur les routes nationales, départementales, voire même des fois sur des débuts d'autoroute, il faut leur donner des terrains. Si on leur donne des terrains, ils arrêteront de le faire.
Alors ça, en fait, ça va en accord avec la police. C'est-à-dire que moi-même, ça m'est arrivé de faire de l'acrobatie maîtrisée sur la route. Donc, quand j'ai maîtrisé, c'est-à-dire je ne suis pas un débutant, mais le risque est toujours là. Les policiers, quand ils m'arrêtent, ils savaient où m'envoyer. Déjà, ils mettaient un PV, parce que les policiers me disent « Mais attends, t'as un parking pour t'entraîner. Ben, » déjà, on te met un PV. Et j'étais, comment dire... Quand les policiers arrêtent des personnes sur la route qui font de l'acrobatie, aujourd'hui, les jeunes vont dire « Ouais, mais on fait ça où ?» Les policiers bah, disent « Je ne sais pas, mais allez ailleurs. » Mais c'est pas, enfin, les jeunes, ils vont quand même continuer à le faire, ils ne vont pas s'arrêter.
Si donc, policiers... donnons de l'espace, c'est intéressant, Régis fait une proposition, il dit « Donnons de l'espace à ces jeunes qui aujourd'hui, si tu veux, font de l'acrobatie, cherchent l'adrénaline dans des endroits qui sont interdits.
» C'est une canalisation de problème, en fait. Quand on avait notre spot...
Moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais parfois, je me demande jusqu'où va leur connerie. Parce que eux, leur truc, puisque c'est quand même le but, c'est de faire des exploits et de passer sur via les réseaux sociaux. Eux, peut-être leur truc, c'est de dire tu vas voir, je vais passer rue machin, je vais même monter l'escalier. Enfin, voilà, moi c'est ça que je crains. Je suis même pas sûr qu'ils accepteraient les emplacements.
Les emplacements en plein cœur de ville. Déjà, il y a des appartements, les gens demeurent. Quand tu vas avoir une vingtaine, trentaine ou peut-être une cinquantaine de motos,
mais en banlieue parisienne, il y a de la place.
Mais en banlieue parisienne, t'as pas tant de place que ça, il faut pas exagérer. Les parcs, c'est pour que les enfants puissent aller jouer au parc. On va pas aller les mettre, ils vont pas aller à 30 ou 40 kilomètres en pleine campagne pour faire ça.
Non, en plus,
c'est complètement utopique.
Non, mais en plus, par rapport à ce que vous dites, Régis, l'adrénaline, justement, l'adrénaline, la recherche, la transgression, c'est de faire en ville. Vous étiez quelqu'un de raisonnable et derrière, vous en avez fait de votre passion ou de cette recherche d'adrénaline, vous en avez fait quelque chose de concret. Tandis que là, pour tous ces jeunes, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant pour eux, qu'on leur donne
Régis,
un espace. Quoi.
Il parle de spectacle, d'acrobatie, tu vois. Je pense pas que ces jeunes-là, ils ont envie.
Et non, mais je pense qu'en plus, si vous voulez, le défi à la police le défi à la population fait partie aujourd'hui du jeu de l'interdit. Et c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent garder. Régis, merci d'avoir été avec nous. Toumba nous appelle de Rueil-Malmaison. Bonjour, Toumba.
Bonjour.
Bonjour. Qu'en dites-vous? Alors, est-ce que l'État, la police doit aller au contact ou pas pour les rodéos urbains?
Alors, pour moi, la police, elle doit aller au contact, mais c'est un discours à double tranchant. C'est-à-dire que si l'État va au contact de ces jeunes qui font du rodéo urbain, on pourrait qualifier l'État, on pourrait simplement dire que l'État va blesser ses enfants. Mm-hmm. Et c'est là le côté paradoxal un petit peu de tout ça, parce que en même temps, on a des jeunes qui font n'importe quoi, que ce soit en rodéo urbain, donc moi je qualifie automobile et motocycliste. Mm-hmm. Dans les deux parts des autres, c'est n'importe quoi, c'est du bordel. Il y a de la surenchère sur Internet comme pas possible. Pour moi, l'État, ce qu'il devrait faire déjà, pour commencer, pour cibler déjà des personnes qui font ça, allez checker sur Internet, que ce soit sur n'importe quel réseau social. Vous mettez une vidéo, vous avez une condamnation. Chaque vidéo émise, une condamnation directement. Déjà, je pense que ça va entrer. Ça va peut-être freiner certaines personnes qui.
Alors, attendez, puisque on a maître consigné du point de vue légal.
Ça me paraît compliqué d'incriminer le fait de poster la vidéo d'un trajet à moto, si vous voulez. Je vois pas le.
C'est pas simplement un trajet à moto, parce que aujourd'hui, on peut voir simplement des personnes qui se filment en faisant des trajets à moto. Il y a d'autres personnes aussi qui se filment où ils sont en groupe, où les plaques d'immatriculation sont scotchées, donc on ne voit pas qui est au volant, les gars sont masqués, etc. Donc, vous me dites, ça paraît compliqué de filmer quelqu'un qui fait un trajet en moto, c'est pas simplement un trajet en moto. Vous faites partie d'un groupe où on vous voit, c'est clairement visible que vous faites n'importe quoi sur la route, que ce soit sur des périphériques, des départementales ou quoi que ce soit, vous obtenez une condamnation.
Aussi simple que ça. Mais je comprends pas, moi, toutes ces réactions en aval. Je trouve que c'est quand même plus efficace d'essayer d'intervenir quand le rodéo urbain se produit. Je veux dire, ça ne dure pas une seconde. En général, c'est tout un petit manège.
Comme vous le dites, il risquerait d'y avoir des blessés.
Mais oui, vous êtes témoin.
Moi, je ne vous parle pas d'intervenir sur le motard. Mais vous envoyez la police sur place et le gars, il est suivi jusqu'à ce qu'il soit descendu de sa moto comme quelqu'un qui commettrait un excès de vitesse ou comme n'importe quelle personne qui commet une infraction.
Toumba, vous envoyez, vous, vers chez vous, de ces rodéos urbains?
Oui, il y en a en bas de chez moi. Des fois, on entend des gars qui passent en moto, en quad, qui montent la rue. Des fois, c'est infernal, surtout l'été quand il fait chaud. On entend des motos jusqu'à 21h, 22h.
Et comment vous réagissez alors? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Ah, moi, je peux rien faire parce que l'effet de groupe, personnellement, moi, je tiens entre guillemets à ma vie, je vais dire ça. Mais moi, j'ai pu participer à des rassemblements plus jeunes. Ouais. Plus jeune, j'ai pu faire des rassemblements automobiles. Et c'est vrai que voilà, la police se pointe, tout le monde partait.
D'accord.
Tout le monde partait, mais on restait toujours dans le respect des forces de l'ordre ou quoi que ce soit. On se faisait arrêter, bon, on donne nos papiers, etc. Bon, les gars, allez plus loin.
Donc là, est-ce que la police vient sur place quand il y a ces rodéos urbains près de chez vous?
On les voit pas.
Ah voilà, c'est ça le sujet, non. Moi je trouve.
Il faut voir déjà combien il y en a. Tu te rends compte que rien que dans le Val-de-Loire, ça fait 133 par mois.
Non mais écoute, aux policiers, je suis désolé, mais à Paris, il y a un policier tous les 5 mètres.
Vrai.
Peut-être pas aux bons endroits quand même, hein, les policiers.
À Paris, il y en a partout. On peut les redéployer, un peu nos effectifs policiers pour les mettre aux endroits où il y a besoin qu'ils interviennent effectivement. Ça me paraît pas extravagant de demander que la police intervienne quand il y a des infractions qui sont en train de se commettre.
Merci Toumba d'avoir été avec nous. Gérald Darmanin s'exprime d'ailleurs. Et du côté de Marseille, il est allé annoncer des renforts de police supplémentaires ce matin. Gérald Darmanin, donc on va suivre ce dossier tout au long de la semaine dans les GG, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. La police doit-elle aller au contact? C'est la question que l'on a posée sur les réseaux sociaux. Ah, c'est un oui très majoritaire. Hein. C'est un oui à 93%. 93% des gens veulent voir la police aller intervenir. C'est la ligne Joël qui est retenue ce matin dans les GG, dans les grandes gueules, futur ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique.
Ça, il est tout droit.
Et de l'intervention rodéo urbain, Joël Dagosséry. Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les suites de l'affaire de l'imam Hassan Iqiyoussen. Il est fiché S, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est Gérald Darmanin qui a été renvoyé dans ses 18 mètres par la justice administrative. L'imam Iqiyoussen, il reste sur le sol français pour le moment.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules tous les jours en direct à la radio, à la télé. Je sais que vous appréciez le fait que l'on soit là à commenter ensemble l'actualité, à discuter, parce que vendredi dernier, vous étiez encore plus d'un million cent mille devant RMC Story à écouter les grandes gueules, à débattre avec les GG. Aujourd'hui, Claire Aupetit, Charles Consigny, Joël Dagosséry, nous sommes avec Elina Dumont. Tout à l'heure, à 10h, notre prochain long sujet de discussion concernera la sécheresse. Est-ce que vous êtes prêt à payer l'eau plus chère?
Voilà. Non.
On a quand même été les enfants gâtés de l'eau. Aujourd'hui, il y a des restrictions. Peut-être que c'est un bien qui n'est plus, ça n'a jamais été gratuit, mais qui n'est plus aussi peu cher et consommable facilement que ce que c'était. Donc, est-ce qu'on doit payer l'eau plus chère? Plus on consomme, plus on paye, et puis c'est tout. Voilà, comme ça au moins on sera raisonnable. On en parle tout à l'heure à 10h avec vous au 32-16. En attendant, on y va pour le monde de Macron.
RMC, les grandes gueules.
C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les 5 années qui viennent.
Le monde de Macron.
On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
Dans le monde de Macron, on a les suites du dossier Imam Hassan Iqiyoussen. Vous savez, il devait être expulsé vers le Maroc. La décision a été demandé par le ministre de l'Intérieur. Finalement, le tribunal administratif a suspendu cette décision. Écoutez la réaction de Gérald Darmanin qui a décidé de faire appel ce matin, le ministre.
D'abord, je voudrais dire que mon travail à moi, c'est de protéger les Français. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Je pense que tous les Français comprennent que nous expulsions ce monsieur qui n'a rien à faire sur le sol français. Et si jamais le Conseil d'État venait à nous donner tort, puisque nous aurons très bientôt des textes législatifs à discuter avec les parlementaires, nous étudierons ensemble les moyens de donner les forces à la République, à la France, de se défendre et de modifier la loi s'il le fallait, pour que les prédicateurs de haine qui ne sont pas français, qui souhaitent une nouvelle fois nier la présence des Juifs sur notre sol, l'égalité entre les femmes et les hommes, ou considérer que les attentats étaient des complots, n'aient rien à faire sur le sol de la République.
Oui, mais en attendant, la justice en a décidé autrement. Dans son jugement, le tribunal administratif dit que les propos tenus en 2018 selon lesquels un homme ne devait pas laisser sa femme sortir seule du foyer constituaient bien des actes de provocation à la discrimination envers les femmes, mais ce seul motif ne peut justifier une mesure d'expulsion. Et ce que dit le tribunal, c'est que en outre, une expulsion porterait une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Donc l'imam Iqiyoussen reste en France. Charles, t'as vu, Darmanin dit « je m'en fous, hein, s'il faudra modifier la loi, je ferai modifier la loi ».
Oui, moi je suis plutôt sur la ligne Darmanin là-dessus, je vais vous dire. Je pense qu'il ne faut pas avoir de pudeur de gazelle sur ces sujets. Tous ces imams radicaux nous gonflent. Je ne vois pas pourquoi on se fatiguerait à les garder sur le territoire français alors qu'on a la volonté de les en expulser. Et donc, j'espère que le Conseil d'État va revenir sur cette décision politiquement correcte du tribunal administratif.
Pourquoi tu dis politiquement correct ?
Je pense que c'est une décision un peu politiquement correcte où on se bande les yeux en voulant pas voir que ce type est manifestement pas souhaitable en France et on trouve des motifs pour le garder en France, pour annuler la décision d'expulsion. Franchement, il faut arrêter de tourner autour du pot. L'islam radical, c'est un problème dans tous les pays du monde. Chaque pays lutte plus ou moins vigoureusement contre un problème qui est plus ou moins important sur son territoire. En France, on a un problème avec l'islam radical. On peut pas garder des imams qui prêchent n'importe quoi, n'importe comment, et qui endoctrinent la population. Donc, je trouve qu'il faut que l'État soit ferme, et j'espère donc que le Conseil d'État reviendra sur cette décision du tribunal administratif.
Elina,
pour ma part, j'ai l'impression quand même qu'il en fait une affaire quand même très personnelle. Darmanin, moi je suis d'accord pour qu'on vire ce genre de personnes, parce que c'est vrai, mais faut
on se réveille un peu tard, hein, parce que ça fait longtemps qu'il professe ce genre de choses.
Oui, mais justement, vieux motard que j'aimais.
Oui, mais tu vois, par exemple, il est quand même, ce monsieur, il est quand même soutenu par 31 mosquées.
Mais c'est ça qui est inquiétant.
Je voulais te dire, ça veut dire que s'il est soutenu par ces 31 mosquées, ça veut dire qu'il pense pareil. Ils font la même prédication, donc faut s'occuper aussi des autres.
Ah, dans le communiqué qui a été envoyé par cette trentaine de mosquées, ils disent au contraire que c'est un homme qui a toujours prêché l'apaisement, le vivre ensemble, que ces propos qu'il a pu tenir il y a quelques années, depuis il avait fait amende honorable, et qu'aujourd'hui, on n'était plus sur cette ligne, Joël Dagosséry.
Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que ce monsieur, si j'ai bien compris, a renoncé à sa nationalité française.
À sa majorité. Il dit sous l'influence de son père. Ensuite, oui. Il a redemandé plusieurs fois et ça lui a été refusé. Et puis là, il était à la fin de son titre de séjour début juin. C'est pour ça qu'on avait demandé son expulsion.
Écoute-moi, une personne qui est née en France.
Ses enfants sont nés en France. Il a 5 enfants.
Il est né en France, il me semble.
Oui, complètement.
Donc, une personne qui est née en France, qui n'a aucune raison de ne pas être français, choisit de ne pas être français, c'est qu'il ne porte pas vraiment ce pays dans son cœur, même s'il dit que c'est sous l'influence de son père. On voit par la suite que les prêches qu'il tient sont pas non plus en conformité avec l'état d'esprit de la République. Donc déjà, moi, ça, enfin, je suis désolée, ce monsieur-là, même pour avoir un titre de séjour, je me poserais quand même question sur une telle personne. Enfin, moi, j'ai des frères et sœurs qui sont nés après la loi Pasqua, où tu ne pouvais plus, comme moi, être français directement, et qui ont choisi tout naturellement, une fois leur majorité, d'être français, parce que t'es né ici. Enfin, c'est presque, j'ai envie de dire, une logique. Donc ça, c'est la première chose. Donc je suis plutôt sur la ligne de Charles. Ce monsieur n'a rien à faire ici, compte tenu de ce qu'il dit. Et l'autre chose, c'est Darmanin et ses cabrioles. Et ça, tout le monde sait que je n'en peux plus. C'est-à-dire que à chaque fois, à chaque fois, il prend un sujet pour lui. Il devient le porte-parole du sujet en question. La dernière fois, c'était les agressions à Lyon. Et puis à chaque fois, c'est un revers. Donc il y a un moment, il faut qu'il se pose question sur sa façon de communiquer et de faire de la politique. Je crois qu'enchaîner les revers comme ça, c'est pas bon du tout, parce qu'en plus, ça donne l'impression aux Français que le gouvernement est impuissant, complètement.
Oui, surtout que là, le dossier était mal ficelé, quoi.
Il se met en avant très tôt dans les dossiers. Il se met en avant très, très tôt. Il porte le dossier avant même la justice. Et donc, il y a un revers. Et ensuite, la population a l'impression que le gouvernement est impuissant. Alors qu'en fait, peut-être que c'était mal ficelé. Peut-être qu'il aurait dû attendre avant de communiquer. Donc, moi, je suis assez fatiguée des cabrioles de Darmanin.
Oui, parce que.
Vraiment, qu'il se calme.
Parce que Charles disait que c'était une justice du politiquement correct ou peut-être sous-entendu une justice de gauche ou je ne sais pas, mais si tu veux le tribunal,
je pense que c'est une décision un peu mollasse.
Non, mais le tribunal il regarde aussi le dossier qu'on lui donne. Et ça fait 20 ans que l'imam il a tenu ces propos là et là ce que dit la justice, écoutez, il est bien léger votre dossier, donc monsieur reste quoi, tu vois.
Non mais
Claire au petit.
Alors quand j'écoute Darmanin là il y a 30 secondes, évidemment que j'approuve, j'applaudis et c'est super, mais là ce ne sont que des paroles.
Oui.
Je suis désolé. Nous apprenons que cet individu est fiché S depuis 18 mois. Comment se fait-il que depuis 18 mois, le ministre de l'Intérieur n'a pas entamé une procédure judiciaire pour l'exclure? Puisqu'il est bien remis, là, à partir du moment où il est fiché S seulement qu'il y a 18 mois, alors que depuis 2004, il fait quand même des prêches épouvantables. Et là, on attend. Et d'un seul coup, on entend parler de cet individu. Et il faut le chasser. Évidemment qu'il faut qu'il quitte le territoire. Mais il est.
Enfin, là, fichier S, ça ne veut pas dire qu'il est fiché S pour terrorisme, apologie du terrorisme ou radicalisation. Parce que derrière fichier S, tu peux mettre beaucoup de choses.
C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est justement, il y avait le dossier devait être suffisamment.
Mais là, visiblement, non.
Là, c'était quand même le tribunal administratif. Le tribunal administratif ne juge pas sur le fond. Il juge uniquement sur le droit. Donc, le dossier, évidemment, n'était pas suffisamment complet. Évidemment que le dossier n'était pas suffisamment étayé. Sinon, le tribunal administratif aurait dit oui, l'aurait accepté. Là, maintenant, il va avoir un recours. Le dossier va être refait par le ministère. J'espère qu'ils vont être capables de le faire, de prendre le temps de monter un dossier de façon à ce qu'il soit expulsé avant la fin du mois. Tout est dans les mains maintenant du ministre de l'Intérieur. Il a une responsabilité incroyable, mais incroyable.
Il ne pourrait pas travailler.
Si la majorité présidentielle veut garder de la crédibilité, il faut que notre ministre de l'Intérieur soit à la hauteur de ses propres paroles. Je sais qu'il en est capable, je le connais, mais qu'il soit un petit peu moins pressé, qu'il monte bien ses dossiers, qui ne joue pas sur le fait, voilà, c'est moi, comme je vais être président de la République en 2027, je vais battre les autres et tout, qui sortent de ça, qui voient surtout l'intérêt général des Français, que toutes ces personnes et ces 32 mosquées soient vraiment remises
en
question.
Donc là, tu dis qu'il faut aller jeter un coup d'œil à ces mosquées qui soutiennent l'imam.
Absolument, là, je vais le tutoyer, parce qu'on se tutoie. Eh bien, maintenant, tu arrêtes tes grands discours. Il faut qu'il soit expulsé avant la fin du mois. Oui, c'est toute la majorité présidentielle qui a sa crédibilité derrière.
Il a une avocate, enfin, ça va pas se passer. C'est pas Darmanin.
Évidemment qu'il y a les conseillers. Et ben, quand les conseillers sont aussi mauvais, on les change. Vu ce qu'ils sont payés, vu ce qu'il y a, c'est la responsabilité, là. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai fait mes courses ce week-end. Alors évidemment, dans mon petit coin, on me connaît en tant qu'ancienne députée. Ils viennent me parler, toute génération, en disant encore la majorité là. Ils parlent, regardez ce qu'il y a. On passe la majorité pour des béni-oui-oui. Encore, alors on nous a traités pendant 5 ans, les députés, de béni-oui-oui, et maintenant ça va être notre ministre de l'Intérieur. Non, tais-toi, agis et fais.
Voilà, c'est bien, ça me résume ce que je voulais dire. Tais-toi, agis et fais. Non, mais pour la crédibilité, il y a deux choses qui sont assez simples. C'est je dis ce que je fais et je fais ce que je dis.
Après, voilà. Une fois que je l'ai fait.
Exactement. Et son problème, c'est qu'il s'avance un petit peu trop. Et donc vraiment, c'est catastrophique.
Mais là, il y a le concours entre le maire, Édouard Philippe, lui, tout ça. Je veux y être. Ah. Eh ben non, il y a 5 ans. Donc pour l'instant, on doit vivre en toute tranquillité et qu'ils fassent leur travail et qu'ils pensent à leur carrière après.
Ils cherchent le trophée. Ils cherchent à dire, c'est moi qui ai expulsé cette personne. Non, on sait très bien que le gouvernement se bat contre les prêches radicaux. Très bien. Et ben, à ce moment-là, une fois qu'il y a une décision qui est prise, mais vraiment ferme, à ce moment-là, il peut venir et nous dire, écoutez, voilà, tel imam est expulsé. Absolument. C'est tout. Il n'y a pas à faire. Là, c'est de la politique pour rien.
Moi, je le dis bien, je suis OK pour qu'il soit expulsé. Mais par exemple, là, le tribunal administratif, c'est bien lui qui a dit non.
Oui, mais l'État a un représentant au tribunal administratif. C'est ça qu'il faut comprendre. Le tribunal administratif, on lui soumet une décision prise par une autorité publique. Il faut que cette décision soit suffisamment bien ficelée pour ne pas être retoquée. Là, si cette décision a été retoquée, ça voulait dire qu'elle était probablement insuffisante. C'est ça qui s'est passé.
À suivre, affaire, dossier à suivre. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure dans le GG, cet match avec la proposition d'Éric Ciotti qui veut une proposition de loi qui permet aux autorités françaises l'expulsion automatique pour les délinquants étrangers. Alors, on a des GG qui sont pour, des GG qui sont contre et on en débattra tout à l'heure à 11h. Dans un instant, la sécheresse, 100 communes qui sont déjà privées d'eau potable ou qui sont rationnées au niveau de l'eau potable. Aujourd'hui, est-ce que l'eau, on doit augmenter les tarifs, payer l'eau plus cher? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Peut-être que ça nous amènera à devenir raisonnable sur la consommation de l'eau.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.